Germaine de Staël, Delphine. Lettre 11 à 17 comprises. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Paris, ce 4 mai. Monsieur Barton est arrivé hier. En entrant dans le salon de Madame de Vernon, j'ai deviné tout de suite que c'était lui. L'on jouait et l'on causait. Il était seul, au coin de la cheminée. Mathilde, de l'autre côté, ne se permettait pas de lui adresser la parole. Il paraissait embarrassé de sa contenance au milieu de tant de gens qui ne le connaissaient pas. La société de Paris est peut-être la société du monde où un étranger cause d'abord le plus de gêne. On est accoutumé à se comprendre si rapidement, à faire allusion à tant d'idées reçues, à tant d'usages ou de plaisanteries sous-entendues, que l'on craint d'être obligé de recourir à un commentaire pour chaque parole, dès qu'un homme nouveau est introduit dans le cercle. J'éprouvais de l'intérêt pour la situation embarrassante de M. Barton, et j'allais à lui sans hésiter. Il me semble qu'on fait un bien réel à celui qu'on soulage des peines de ce genre, de quelque peu d'importance qu'elles soient en elles-mêmes. M. Barton est un homme d'une physionomie respectable, vêtu de brun, coiffé sans poudre. Son extérieur est imposant. On croit voir un Anglais ou un Américain plutôt qu'un Français. N'avez-vous pas remarqué combien il est facile de reconnaître au premier coup d'œil le rang qu'un Français occupe dans le monde? Ses prétentions et ses inquiétudes le trahissent presque toujours, dès qu'il peut craindre d'être considéré comme inférieur. Tandis que les Anglais et les Américains ont une dignité calme et habituelle qui ne permet ni de les juger, ni de les classer légèrement. Je parlais d'abord à M. Barton de sujets indifférents. Il me répondit avec politesse, mais brièvement. J'aperçus très vite qu'il n'avait point le désir de faire remarquer son esprit, et qu'on ne pouvait pas l'intéresser par son amour-propre. Je cédai donc à l'envie que j'avais de l'interroger sur M. de Mondeville, et son visage prit alors une expression nouvelle. Je vis bien que, depuis longtemps, il ne s'animait qu'à ce nom. Comme M. Barton me savait proche parente de Mathilde, il se livra presque de lui-même à me parler sur tous les détails qui concernaient Léonce. Il m'apprit qu'il avait passé son enfance alternativement en Espagne, la patrie de sa mère, et en France, celle de son père, qu'il parlait également bien les deux langues et s'exprimait toujours avec grâce et facilité. Je compris dans la conversation que Madame de Mondeville avait dans les manières une hauteur très pénible à supporter, et que Léonce, adoucissant par une bonté attentive et délicate ce qui pouvait blesser son précepteur, lui avait inspiré autant d'affection que d'enthousiasme. J'essayai de faire parler M. Barton sur ce qui nous avait été dit par le duc de Mandos. Il évita de me répondre. Je crus remarquer, cependant, qu'il était vrai qu'à travers toutes les rares qualités de Léonce, on pouvait lui reprocher trop de véhémence dans le caractère, et surtout une crainte du blâme portée si loin qu'il ne lui suffisait pas de son propre témoignage pour être heureux et tranquille. Mais je le devinais plutôt que M. Barton ne me le dit. Il s'abandonnait à louer l'esprit et l'âme de M. de Mondeville avec une conviction tout à fait persuasive. Je me plus presque tout le soir à causer avec lui. Sa simplicité me faisait remarquer dans les grâces un peu recherchées du siècle le plus brillant de Paris une sorte de ridicule qui ne m'avait point encore frappé. On s'habitue à ces grâces qui s'accordent assez bien avec l'élégance des grandes sociétés. mais quand un caractère naturel se trouve au milieu d'elle, il fait ressortir par le contraste les plus légères nuances d'affectation. Je causais presque tout le soir avec M. Barton. Il parlait de M. de Mandeville avec tant de chaleur et d'intérêt que j'étais captivée par le plaisir même que je lui faisais en l'écoutant. D'ailleurs, un homme simple et vrai, parlant du sentiment qu'il a occupé toute sa vie, excite toujours l'attention d'une âme capable de l'entendre. M. de Serbellane et M. de Fierville vinrent, cependant, auprès de moi, me reprocher de n'être pas, selon ma coutume, ce qu'ils appellent brillante. Je m'impatientais contre eux de leur persécution et je m'en délivrais en rentrant chez moi de bonne heure. Que la destinée de ma cousine sera belle, ma chère Louise, si Léon sait tel que M. Barton me l'a peint. Elle ne souffrira pas même du seul défaut qu'il soit possible de lui supposer, et que peut-être on exagère beaucoup. Mathilde ne hasarde rien, elle ne s'expose jamais au blâme. Elle conviendra donc parfaitement à Léonce. Moi je ne saurais pas, mais ce n'est pas de moi dont il s'agit, c'est de Mathilde. Elle sera bien plus heureuse que je ne puis jamais l'être. Adieu, ma chère Louise, je vous quitte. J'éprouve ce soir un sentiment vague de tristesse que le jour dissipera sans doute. Encore une fois, adieu. Lettre 12. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 8 mai. Je suis mécontente de moi, ma chère Louise, et pour me punir, je me condamne à vous faire le récit d'un mouvement blâmable que j'ai à me reprocher. Il a été si passager que je pourrais me le nier à moi-même. Mais pour conserver son cœur dans toute sa pureté, il ne faut pas repousser l'examen de soi. Il faut triompher de la répugnance qu'on éprouve à s'avouer les mauvais sentiments qui se cachent longtemps au fond de notre cœur, avant d'en usurper l'empire. Depuis quelques jours, M. Barton me parlait sans cesse de Léonce. Il me racontait des traits de sa vie qui le caractérisent comme la plus noble des créatures. Il m'avait, une fois, montré un portrait de lui que Mathilde avait refusé de voir, avec une exagération de pruderie qui n'était en vérité que ridicule. Et ce portrait, je l'avoue, m'avait frappé. Enfin, M. Barton, se plaisant tous les jours plus avec moi, me laissa entrevoir, avant-hier, à la fin de notre conversation, qu'il ne croyait pas le caractère de Mathilde propre à rendre Léon heureux, et que j'étais la seule femme qui lui parut digne de son élève. De quelque détour qu'il enveloppa cette insinuation, je l'entendis très vite. Elle m'émut profondément. Je quittai M. Barton à l'instant même, et je revins chez moi, inquiète de l'impression que j'en avais reçue. Il me suffit, cependant, d'un moment de réflexion pour rejeter loin de moi des sentiments confus que je devais bannir dès que j'avais pu les reconnaître. Je résolus de ne plus m'entretenir en particulier avec M. Barton, et je crus que cette décision avait fait entièrement disparaître l'image qui m'occupait. Mais hier, au moment où j'arrivais chez Madame de Vernon, M. Barton s'approcha de moi et me dit « Je viens de recevoir une lettre de M. de Montauville qui m'annonce son départ d'Espagne. Ayez la bonté de la lire. » En achevant ces mots, il me tendit cette lettre. Quel prétexte pour la refuser! D'ailleurs, ma curiosité précéda ma réflexion. Mes yeux tombèrent sur les premières lignes de la lettre et il me fut impossible de ne pas l'achever. En effet, ma chère Louise, jamais on n'a réuni, dans un style si simple, tant de charmes différents, de la noblesse et de la bonté, des expressions toujours naturelles, mais qui toutes appartenaient à une affection vraie et à une idée originale. Aucune de ces phrases usées qui ne peignent rien que le vide de l'âme, de la mesure sans froideur, une confiance sérieuse, telle qu'elle peut exister entre un jeune homme et son instituteur. Mille nuances qui semblent de peu de valeur et qui caractérisent cependant les habitudes de la vie entière et cette élévation du sentiment, la première des qualités, celle qui agit comme par magie sur les âmes de la même nature. Cette lettre était terminée par une phrase douce et mélancolique sur l'avenir qui l'attendait, sur ce mariage décidé sans qu'il eût jamais vu Mathilde. La volonté de sa mère, disait-il, avait pu seule le contraindre à s'y résigner. Je relus ce peu de mots plusieurs fois. Je crois que M. Barton le remarqua, car il me dit « Madame, croyez-vous que la froideur de Mademoiselle de Vernon puisse rendre heureux un homme d'une sensibilité si véritable ?» Je ne sais pas ce que j'allais lui répondre lorsque M. de Serbellane, se donnant à peine le temps de saluer Mme de Vernon, me pria d'aller avec lui dans le jardin. Il y a tant de réserve et de calme dans les manières habituelles de M. de Serbellane que je fus troublée par cet empressement inusité, comme s'il devait annoncer un événement extraordinaire. Et, craignant quelque malheur pour Thérèse, je suivis son amie en quittant précipitamment M. Barton. « Elle arrive dans 8 jours, me dit M. de Serbellane. Vous n'avez plus le temps de lui écrire. Il faut s'occuper uniquement d'écarter d'elle, s'il est possible, les dangers de cette démarche. « Ah, mon Dieu, que m'apprenez-vous ? Lui répondis-je. « Comment ? Vous n'avez pu réussir ? J'en ai peut-être trop fait, interrompit-il, car je crois entrevoir que l'inquiétude qu'elle éprouve sur mes sentiments est la principale cause de ce voyage. Je la rassurerai sur cette inquiétude, ajouta-t-il, car je lui suis dévoué pour ma vie. Mais quand vous verrez M. Dervin, vous comprendrez combien je dois être effrayé. Le despotisme et la violence de son caractère me font tout craindre pour Thérèse s'il découvre ses sentiments. Et quoiqu'il ait peu d'esprit, son amour-propre est toujours si éveillé que dans beaucoup de circonstances, il peut lui tenir lieu de finesse et de sagacité. M. de Serbellane continua cette conversation pendant quelque temps, et j'y mettais un intérêt si vif qu'elle se prolongea sans que j'y songeasse. Enfin, je la terminai en recommandant Thérèse à la protection de M. de Serbellane. « Oui, lui dis-je, je ne craindrai point de demander à celui-même qui l'a entraînée de devenir son guide et son frère dans cette situation difficile. Thérèse est plus passionnée que vous. Elle vous aime plus que vous ne l'aimez. C'est donc à vous de la diriger. Celui des deux qui ne peut vivre sans l'autre est l'être soumis et dominé. Thérèse n'a point ici de parents ni d'amis. Veillez sur elle en défenseur généreux et tendre. Réparez vos torts par ces vertus du cœur qui naissent toutes de la bonté. » Je m'animai en parlant ainsi, et je posai ma main sur le bras de M. de Serbellane. Il la prit et l'approcha de ses lèvres avec un sentiment dont Thérèse seule était l'objet. M. Barton, dans ce moment, entrait dans l'allée où nous étions. En nous apercevant, il retourna très promptement sur ses pas, comme pour nous laisser libres. Je compris dans l'instant son idée, et je l'atteignis avant qu'il fût rentré dans le salon. « Pourquoi vous éloignez-vous de nous ? » lui dis-je avec assez de vivacité. « Par discrétion, madame, par discrétion, » me répéta-t-il d'une manière un peu affectée. « Je le vois, » repris-je. « Vous croyez que j'aime M. de Serbellane ? » « Concevez-vous, ma chère Louise, que j'ai manqué de mesure au point de parler ainsi à un homme que je connaissais à peine ? » Mais j'avais eu trop d'émotion depuis 1 heure, et j'étais si agitée que mon trouble même me faisait parler sans avoir le temps de réfléchir à ce que je disais. « Je ne crois rien, madame, » me répondit M. Barton. « De quel droit ?»« Ah, que je déteste ces tournures, » lui dis-je, avec une personne de mon caractère. Mais permettez-moi, madame, de vous faire observer, interrompit monsieur Barton, que je n'ai pas l'honneur de vous connaître depuis longtemps. C'est vrai, lui dis-je. Cependant, il me semble qu'il est bien facile de me juger en peu de moments. Mais je vous le répète, je n'aime point monsieur de Sermelan. Je ne l'aime point. S'il en était autrement, je vous le dirais. Vous auriez tort, me répondit monsieur Barton. Je n'ai pas encore mérité cette confiance. Toujours plus déconcertée par sa raison, et cependant toujours plus inquiète de l'opinion qu'il pouvait prendre de mes sentiments pour monsieur de Sermelan, une vivacité que je ne puis concevoir, que je ne puis me pardonner, me fit dire à monsieur Barton, « Ce n'est pas de moi, je vous jure, que monsieur de Sermelan est occupé. » Je n'achevais pas cette phrase, tout insignifiante qu'elle était. Je ne l'achevais pas, ma sœur, je vous l'atteste. Elle ne pouvait rien apprendre ni rien indiquer à monsieur Barton. Néanmoins, je fus saisie d'un remords véritable au premier mot qui m'échappa. Je cherchai l'occasion de me retirer et, réfléchissant sur moi-même, je fus indignée du motif coupable qui m'avait causé tant d'émotions. Je craignais, je ne puis me le cacher, je craignais que M. Barton ne dît à Léonce que mes affections étaient engagées. Je voulais donc que Léonce pût me préférer à ma cousine. C'est moi qui fais ce mariage. C'est moi qui suis liée par un sentiment presque aussi fort que la reconnaissance par les services que j'ai rendus, les remerciements que j'en ai recueillis, la récompense que j'en ai goûtée. Mon amie se flatte du bonheur de sa fille. Elle croit me le devoir. Et ce serait moi qui songerais à le lui ravir? Quel motif m'inspire cette pensée? Un penchant de pure imagination pour un homme que je n'ai jamais vu, qui peut-être me déplairait si je le connaissais. Que serait-ce donc si je l'aimais? Et néanmoins, les sentiments de délicatesse les plus impérieux ne devraient-ils pas imposer silence même à un attachement véritable? Ne pensez pas, cependant, ma chère Louise, autant de mal de moi que ce récit le mérite. N'avez-vous pas éprouvé vous-même qu'il existe quelquefois en nous des mouvements passagers les plus contraires à notre nature? C'est pour expliquer ces contradictions du cœur humain qu'on s'est servi de cette expression. Ce sont des pensées du démon. Les bons sentiments prennent leur source au fond de notre cœur. Les mauvais nous semblent venir de quelque influence étrangère qui trouble l'ordre et l'ensemble de nos réflexions et de notre caractère. Je vous demande de fortifier mon cœur par vos conseils. La voix qui nous guida dans notre enfance se confond pour nous avec la voix du ciel. Lettre 13. Réponse de Mademoiselle d'Albémare à Delphine. Montpellier, ce 14 mai. Non, ma chère enfant, je ne vous aurais point trouvé coupable de vous livrer à quelque intérêt pour Léonce, et s'il avait été digne de vous, s'il vous avait aimé, je n'aurais pas trop conçu pourquoi vous auriez sacrifié votre bonheur, non à la reconnaissance que vous devez, mais à celle que vous avez méritée. Quoi qu'il en soit, hélas, il n'est plus temps de faire ces réflexions. Il n'est que trop vraisemblable qu'en ce moment, ce malheureux jeune homme n'existe plus pour personne. J'ai la triste mission de vous envoyer cette lettre. Il faut la montrer à M. Barton et prévenir Mme de Vernon et sa fille de la perte de leurs plus brillantes espérances. C'est le seul moment où j'ai éprouvé quelques bons sentiments pour Mme de Vernon. Mais il n'est pas nécessaire de me joindre à tout ce que vous lui témoignerez. Celle qui est aimée de vous, ma chère Delphine, ne manque jamais des consolations les plus tendres. Et c'est vous que je plains quand vos amis sont malheureux. Je ne doute pas que ce ne soit l'indigne frère de mademoiselle de Sorane qui doive être accusé de ce crime abominable. Bayonne, le 10 mai 1790. Comme vous êtes parente de madame de Vernon, mademoiselle, vous avez sans doute son adresse à Paris, et vous ferez parvenir à un monsieur Barton qui doit être chez elle à présent la nouvelle du triste accident arrivé à son élève, qui n'a voulu dire qu'un seul mot, c'est qu'il désirait voir son instituteur, actuellement à Paris, chez madame de Vernon. Ce pauvre monsieur Léonce de Mondeville m'était recommandé par un négociant de Madrid, et je l'attendais hier au soir, mais je ne croyais pas qu'on me l'apportât dans ce triste état. En traversant les Pyrénées, il a fait quelques pas à pied, laissant passer sa voiture devant lui avec son domestique. À la nuit tombante, il a reçu deux coups de poignard près du cœur, par deux hommes qu'il connaît, à ce que j'ai pu comprendre, d'après quelques mots qu'il a prononcés, mais qu'il n'a jamais voulu nommer. Son domestique, ne le voyant point venir, est retourné sur ses pas, et l'a trouvé sans connaissance au milieu du chemin de la forêt. On a appelé des paysans, et avec leur secours, il a été apporté chez moi sans reprendre ses sens. On le croyait mort. Cependant, depuis une heure, il a parlé, comme je l'ai dit, pour demander que son instituteur vînt en toute hâte auprès de lui et qu'on se gardât bien d'informer sa mère de son état. Le juge s'est transporté chez moi pour écrire sa déposition sur les assassins. Il a refusé de rien répondre, ce qui me paraît vraiment trop beau. Mais du reste, il est impossible d'être plus intéressant. Et c'est avec une vraie douleur, mademoiselle, que je me vois forcée de vous apprendre que les médecins ont déclaré ses blessures mortelles. Il est si beau, si jeune, si bon, que cela fait pleurer tout le monde. Et ma pauvre famille en particulier s'en désole vivement. Ne perdez pas de temps, je vous prie, mademoiselle, pour faire venir son instituteur. Il arrivera trop tard, mais enfin, il nous dira ce que nous avons à faire. J'ai l'honneur d'être, avec respect, mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. Thélin, négociant à Bayonne. Lettre 14. Delphine à mademoiselle d'Albémare. Ce 19 mai. Ah, ma chère sœur, quelle nouvelle vous m'apprenez! Je suis dans une angoisse inexprimable, craignant de perdre une minute pour avertir M. Barton et frémissant de la douleur que je suis condamnée à lui causer. Il faut aussi prévenir madame de Vernon et Mathilde. Combien je sens vivement leur peine! Ma pauvre Sophie, le fils de son ami, l'époux de sa fille, et Mathilde, ah, que je me reproche d'avoir blâmé l'excès de sa dévotion. Elle ne sera peut-être jamais heureuse. Si elle avait livré son cœur à l'espérance d'être aimée, que deviendrait-elle à présent? Néanmoins, elle ne l'a jamais vue. Mais moi aussi, je ne l'ai jamais vue. Et les larmes m'oppressent, et la force me manque pour remplir mon triste devoir. Allons, je m'y soumets. Je sors. Adieu. Ce soir, je vous rendrai compte de cette cruelle journée. Minuit. Monsieur Barton est parti depuis une heure, ma chère Louise. Excellent homme, qu'il est malheureux. Et que les peines de l'âge avancé portent un caractère déchirant. Hélas, la vieillesse elle-même est une douleur habituelle dont l'amertume aigrit tous les chagrins que l'on éprouve. J'ai été chez madame de Vernon à 6 heures. J'ai fait demander monsieur Barton à sa porte. Il est venu à l'instant même avec un air d'empressement et de gaieté qui m'a fait bien mal. Rien n'est plus touchant que l'ignorance d'un malheur déjà arrivé, et le calme qui se peint sur un visage qu'un seul mot va bouleverser. Monsieur Barton monta dans ma voiture, et je donnai l'ordre de nous conduire loin de Paris. J'avais imaginé plusieurs moyens de lui annoncer cet affreux événement. Mais il remarqua bientôt l'altération de mes traits et me demanda avec sensibilité s'il m'était arrivé quelque malheur. L'intérêt même qu'il prenait à moi l'éloignait entièrement de l'idée que la peine dont il s'agissait pût le concerner. J'hésitais encore sur ce que je lui dirais, mais enfin, je pensais qu'il n'y avait point de préparation possible pour une telle douleur, et je lui remis la fatale lettre. « Lisez, lui dis-je, avec courage, avec résignation, et sans oublier les amis qui vous restent et que votre malheur attache à vous pour jamais. » À peine cet excellent homme eut-il vu le nom de Léonce qu'il pâlit. Il lut cette lettre deux fois, comme s'il ne pouvait la croire. Enfin, il la laissa tomber, couvrit son visage de ses deux mains et pleura amèrement sans dire un seul mot. Je versai des larmes à côté de lui, effrayée de son silence, attendant que ses premières paroles m'indiquassent dans quel sens il cherchait des consolations. Je demandai au ciel la voix qui peut adoucir les blessures du cœur. « Ô Léonce, s'écria-t-il enfin, gloire de ma vie, seul intérêt d'un homme sans carrière, sans nom, sans destinée, était-ce à moi de vous survivre? Que fait ce vieux sang dans mes veines quand tout le vôtre a coulé? Quelle fin de vie m'est réservée? Ah, madame, me dit-il, vous êtes jeune, belle, vous avez pitié d'un vieillard, mais vous ne pouvez pas vous faire une idée des dernières douleurs d'une existence sans avenir, sans espoir. Vous ne le connaissiez pas, mon ami, mon noble ami, que des monstres ont assassiné. Pourquoi ne veut-il pas les nommer? Je les connais, je les ferai connaître. Ils ne vivront point après avoir fait périr ce que le ciel avait formé de meilleur. Alors, il se rappelait les traits les plus aimables de l'enfance et de la jeunesse de son élève. C'était le plus beau, le fier, le spirituel Léonce qu'il me peignait. Il ne se retraçait plus les grâces et les talents qui devaient plaire dans le monde. Il ne me parlait que des qualités touchantes dont le souvenir s'unit avec tant d'amertume à l'idée d'une séparation éternelle. J'étais agité par une incertitude cruelle. Devais-je, en rappelant à M. Barton que Léonce le demandait auprès de lui, fixer son imagination sur la possibilité de le revoir encore et de contribuer peut-être à le guérir? M. Barton ne m'avait pas dit un seul mot qui indiquât cette pensée. La craignait-il? Redoutait-il une seconde douleur après un nouvel espoir? Ma chère Louise, avec quel tremblement l'on parle à un homme vraiment malheureux! Comme on a peur de ne pas deviner ce qu'il faut lui dire et de toucher maladroitement aux peines d'un cœur déchiré! Enfin, je dis à M. Barton qu'il devait partir et que peut-être il pouvait encore se flatter de retrouver Léonce. Ce dernier mot, dont j'attendais tant d'effets, n'en produisit aucun. Il m'entendit tout de suite, mais sans se livrer à l'espoir que je lui offrais. À l'âge de M. Barton, le cœur n'est point mobile. Les impressions ne se renouvellent pas vite, et le même sentiment oppresse sans aucun intervalle de soulagement. Néanmoins, depuis cet instant, il ne parla plus que de son départ. Il me demanda de retourner chez Madame de Vernon, j'en donnai l'ordre. Je convins avec lui qu'il partirait le soir même avec ma voiture, et que l'un de mes domestiques, plus jeune que le sien, courrait devant lui pour hâter son voyage. Il était un peu ranimé par l'occupation de ces détails. Tant qu'il reste une action à faire pour l'être qui nous intéresse, les forces se soutiennent et le cœur ne succombe pas. Nous arrivâmes enfin chez ma tante. En songeant à la peine qu'elle allait éprouver, j'étais saisi moi-même de la plus vive émotion. Je laissai M. Barton entrer seul chez Mme de Vernon, et je restai quelques minutes dans le salon pour reprendre mes sens. Enfin, domptant cette faiblesse qui m'empêchait de consoler mon amie, j'entrai chez elle. Je la trouvai plus calme que je ne l'espérais. M. Barton gardait le silence. Mathilde se contenait avec quelque effort. Mme de Vernon vint à moi et m'embrassa. Je voulus m'approcher de Mathilde. Je la vis rougir et pâlir. Elle me serra la main amicalement. Mais elle sortit de la chambre à l'instant même, se faisant un scrupule, je crois, d'éprouver ou de montrer aucune émotion vive. Madame de Vernon me dit alors, « Imaginez que, dans ce moment même, je viens de recevoir une lettre de Madame de Mondeville pour m'apprendre son consentement au mariage d'après les nouvelles propositions que je lui avais faites. Elle m'annonce en même temps le départ de son fils. Je serrai une seconde fois Madame de Vernon dans mes bras. « Enfin, me dit-elle avec le courage qui lui est propre, occupons-nous de hâter le départ de M. Barton et soumettons-nous aux événements. « Il n'y a rien à faire pour mon voyage, dit M. Barton, avec un accent qui exprimait, je crois, une humeur un peu injuste sur le calme apparent de Madame de Vernon. Madame d'Albémare a bien voulu pourvoir à tout et je pars. « C'est très bien, répliqua Madame de Vernon, qui s'aperçut du mécontentement de M. Barton. Et, s'adressant à moi, elle me dit, comme à demi-voix, « Quel zèle et quelle affection il témoigne à son élève !»« Vous avez remarqué quelquefois que Madame de Vernon avait l'habitude de louer ainsi comme par distraction et en parlant à un tiers. Mais le malheureux Barton n'y donna pas la moindre attention. » Il était bien loin de penser à l'impression que sa douleur pourrait produire sur les autres. S'il lui était resté quelque présence d'esprit, c'eût été pour la cacher et non pour s'emparer. Absorbé dans son inquiétude, il sortit sans dire un mot à Madame de Vernon. Je le suivis pour le conduire chez moi, où il devait trouver tout ce qui lui était nécessaire pour sa route. Lorsque nous fûmes en voiture, il dit en se parlant à lui-même, « Mon cher Léonce, vos seuls amis, c'est votre malheureux instituteur, c'est aussi votre pauvre mère. » Et, se retournant vers moi, « Oui, s'écria-t-il, j'irai nuit et jour pour le rejoindre, peut-être me dira-t-il encore un dernier adieu, et je resterai près de sa tombe pour soigner ses derniers restes, et méritait ainsi d'être enseveli près de lui. » En disant ces mots, cet infortuné vieillard se livrait à un nouvel accès de désespoir. « Madame, me dit-il alors, devant vous je pleure. Tout à l'heure j'étais calme. Votre bonté ne repoussera pas cette triste preuve de confiance, j'en suis sûr, vous ne la repousserez pas. » Nous arrivâmes chez moi. Je pris toutes les précautions que je pus imaginer pour que le voyage de M. Barton fût le plus commode et le plus rapide possible. Il fut touché de ses soins et, prêt à monter en voiture, il me dit « Madame, s'il vient en mon absence quelques lettres de Bayonne, je n'ose pas dire de Léonce, enfin aussi de Léonce même, ouvrez-les. Vous verrez ce qu'il faut faire d'après ces lettres. Et vous me l'écrirez à Bordeaux. » N'est-ce pas Madame de Vernon, lui dis-je, qui devrait? Non, me répondit-il. Madame, permettez-moi de vous répéter que je veux que ce soit vous. Hélas, dans ce dernier moment, lorsqu'il n'est que trop probable que jamais je ne vous reverrai, qu'il me soit permis de vous dire une idée peut-être insensée que j'avais conçue pour mon malheureux élève. Je ne trouvais point que Mademoiselle de Vernon pût lui convenir, et j'osais remarquer en vous tout ce qui s'accordait le mieux avec son esprit et son âme. J'allais lui répondre, mais il me serra la main avec une affection paternelle, Cette affection me rappelle M. d'Albémar, et jamais je ne l'ai retrouvé sans émotion. Il me dit alors, « Ne vous offensez pas, madame, de cette hardiesse d'un vieillard qui chérit Léonce comme son fils, et que vos bontés ont profondément touché. Hélas, ces douces chimères sont remplacées par la mort, ah Dieu !» Il se précipita hors de ma chambre et se jeta au fond de la voiture, dans un accablement qui redoubla ma pitié. Resté seul, je pus me livrer enfin à la douleur que moi aussi j'éprouvais. Je n'avais dû m'occuper que des peines des autres, mais celle que je ressentais n'était pas moins vive, quoique la destinée de ce malheureux jeune homme fût étrangère à la mienne. Ma tante et ma cousine le regrettent pour elle, pour le bonheur qu'il devait leur procurer. Moi, que le sort séparait irrévocablement de lui, je pleure une âme si belle, un être si libéralement doué, périssant ainsi dans les premières années de sa vie. Oui, s'il meurt, je lui vouerai un culte dans mon cœur. Je croirai l'avoir aimé, l'avoir perdu, et je serai fidèle au souvenir que je garderai de lui. Ce sera un sentiment doux, l'objet d'une mélancolie sans amertume. Je demanderai son portrait à M. Barton, et toujours je conserverai cette image, comme celle d'un héros de roman dont le modèle n'existe plus. Déjà, depuis quelque temps, je perdais l'espoir de rencontrer celui qui posséderait toutes les affections de mon cœur. J'en suis sûr maintenant, et cette certitude est tout ce qu'il faut pour vieillir en paix. Mais peut-être que Léonce vivra. S'il vit, il sera l'époux de Mathilde, et plus de chimères alors, mais aussi plus de regrets. Adieu, ma chère Louise. Il est possible que, dans peu, je me réunisse à vous pour toujours. Lettre 15. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 22 mai. J'ai trouvé ce soir plus de charme que jamais dans l'entretien de Madame de Vernon. Et cependant, pour la première fois, mon cœur lui a fait un véritable reproche. Quand je vous parle d'elle avec tant de franchise, ma chère Louise, je vous donne la plus grande marque possible de confiance. N'en concluez, je vous prie, rien de défavorable à mon ami. Je puis me tromper sur un tort que mille motifs doivent excuser. Mais j'ai sûrement raison quand je crois que les qualités les plus intimes de l'âme peuvent seules inspirer cette délicatesse parfaite dans les discours et dans les moindres paroles qui rend la conversation de Madame de Vernon si séduisante. J'avais été douloureusement émue tout le jour. L'image de Léonce me poursuivait. Je n'avais pu fermer l'œil sans le voir sanglant, blessé, prêt à mourir. Je me le représentais sous les traits les plus touchants, et ce tableau m'arrachait sans cesse des larmes. J'allais vers 8 heures du soir chez Madame de Vernon. Mathilde avait passé tout le jour à l'église et s'était couchée en revenant, sans avoir témoigné le moindre désir de s'entretenir avec sa mère. Je trouvais donc Sophie seule et assez triste. Je l'étais bien plus encore. Nous nous assîmes sur un banc de son jardin, d'abord sans parler. Mais bientôt elle s'anima et me fit passer une heure dans une situation d'âme beaucoup meilleure que je ne pouvais m'y attendre. La douceur est, pour ainsi dire, la mollesse même de sa conversation ont je ne sais quelle grâce qui suspendit ma peine. Elle suivait mes impressions pour les adoucir. Elle ne combattait aucun de mes sentiments, mais elle savait les modifier à mon insu. J'étais moins triste sans en savoir la cause. Mais enfin, auprès d'elle, je l'étais moins. Je dirigeais notre conversation sur ces grandes pensées vers lesquelles la mélancolie nous ramène invinciblement. L'incertitude de la destinée humaine, l'ambition de nos désirs, l'amertume de nos regrets, l'effroi de la mort, la fatigue de la vie, tout ce vague du cœur enfin, dans lequel les âmes sensibles aiment tant à s'égarer, fut l'objet de notre entretien. Elle se plaisait à m'entendre, et, m'excitant à parler, elle mêlait des mots précis et justes à mes discours, et soutenait et ranimait mes pensées toutes les fois que j'en avais besoin. Lorsque j'arrivais chez elle, j'étais abattue et mécontente de mes sentiments sans vouloir me l'avouer. Je crois qu'elle devina tout ce qui m'occupait, car elle me dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Elle me releva par degrés dans ma propre estime. J'étais mieux avec moi-même, et je ne m'apercevais qu'à la réflexion que c'était elle qui modifiait ainsi mes pensées les plus secrètes. Enfin, j'éprouvais au fond de l'âme un grand soulagement, et je sentais bien en même temps qu'en m'éloignant de Sophie, le chagrin et l'inquiétude me ressaisiraient de nouveau. Je m'écriais donc dans une sorte d'enthousiasme. « Ah, mon ami, ne me quittez pas. Passons de longues heures à causer ensemble. Je serai si mal quand vous ne me parlerez plus. » Comme je prononçais ces mots, un domestique entra et dit à Madame de Vernon que M. de Fierville demandait à la voir, quoiqu'on lui ait déclaré à sa porte qu'elle ne recevait personne. « Refusez-le, je vous en conjure, ma chère Sophie, » dis-je avec insistance. « Savez-vous, interrompit Madame de Vernon, si le neveu de Madame de Marsay a gagné ou perdu ce grand procès dont dépendait toute sa fortune ?»« Mon Dieu, interrompis-je, on m'a dit hier qu'il l'avait gagné. Ainsi, vous n'avez point à consoler M. de Fierville des chagrins de son ami. Refusez-le. » « Il faut que je le voie, dit alors Madame de Vernon. » Et elle fit signe à son domestique de le faire monter. Je me sentis blessée, je l'avoue, et ma physionomie l'exprima. Madame de Vernon s'en aperçut et me dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille. » « Quoi ? M'écriai-je assez vivement. Vous songez déjà à remplacer Léonce ? Pauvre jeune homme, vous n'êtes pas longtemps regretté par l'ami de votre mère. » Je me reprochais ces paroles à l'instant même, car Madame de Vernon rougit en les entendant, et comme elle me laissait partir, sans essayer de me retenir, je restai quelques minutes après l'arrivée de M. de Fierville, la main appuyée sur la clé de la porte du salon et tardant à l'ouvrir. Madame de Vernon enfin le remarqua. Elle vint à moi, et, sans me faire aucun reproche, elle insista beaucoup sur le prix qu'elle mettait à l'union de sa fille avec Léonce, sur toutes les circonstances qui lui rendaient ce mariage mille fois préférable à tout autre. Elle reprit, par degrés, sa grâce accoutumée, et je partis après l'avoir embrassée. Mais je conservai cependant quelques nuages de ce qui venait de se passer. Concevez-vous ma folie, ma chère Louise? Ce qui m'a blessée peut-être si vivement, c'est un témoignage d'indifférence pour Léonce. Pourquoi vouloir que Madame de Vernon le regrette profondément, qu'elle ne cherche point un autre époux pour sa fille, elle ne l'a jamais vue. Cependant, n'est-il pas vrai, ma chère Louise, que c'est se consoler trop tôt de la perte d'un jeune homme si distingué? Ah, s'il était possible qu'on le sauvât, ce serait Mathilde qui goûterait le bonheur d'en être aimée. Elle n'aurait pas souffert de son danger, il renaîtrait pour elle. Le calme de son imagination et de son âme la préserve des peines les plus amères de la vie. Louise, votre Delphine ne lui ressemble pas. Lettre 16. Mademoiselle d'Albémare à Delphine. Montpellier, 20 mai 1790. Je me hâte de vous dire, ma chère Delphine, que M. de Mondeville est mieux. Un chirurgien habile l'a soigné avec beaucoup de bonheur et lorsque la perte de son sang a été arrêtée, il s'est trouvé très vite hors de tout danger. Il aurait déjà repris sa route si l'on ne craignait que sa blessure ne se rouvrît en voyageant. Il a écrit à M. Barton une lettre que Télin m'a adressée pour vous prier de la faire parvenir sûrement. Je vous l'envoie. Il faut que Léonce ait quelque chose de bien aimable pour que ce vieux négociant de Bayonne, Télin, qui, de sa vie, n'a pensé qu'aux moyens de gagner de l'argent, écrive des lettres toutes remplies d'éloges sur les qualités généreuses de M. de Mondeville. En vérité, je crois qu'il a fait de Télin une mauvaise tête. Sérieusement, c'est un rare mérite que celui qui est vivement senti, même par les hommes vulgaires. Et je crois toujours plus aux qualités qui produisent de l'effet sur tout le monde qu'à ces supériorités mystérieuses qui ne sont reconnues que par des adeptes. Chère Delphine, il est très vraisemblable à présent que vous allez voir M. de Mondeville. Votre imagination est singulièrement préparée à recevoir une grande impression par sa présence. Défendez-vous de cette disposition, je vous en conjure, et rendez à votre esprit toute l'indépendance dont il a besoin pour bien juger. Lettre 17. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Paris, 25 mai. La lettre de Léonce que vous m'envoyez, ma chère sœur, est extrêmement remarquable. Comme M. Barton m'avait demandé de l'ouvrir, je l'ai lue. Depuis 2 heures qu'elle est entre mes mains, elle a fait naître en moi une foule de pensées qui m'étaient nouvelles. Je vous ferai part de mes réflexions une autre fois. Le seul mot que je sois pressée de vous dire, c'est que la lecture de cette lettre a tout à fait calmé les idées qui me troublaient, et que je n'ai plus à craindre le mauvais mouvement qui me faisait envier le sort de ma cousine.